bienvenue dans ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Aujourd'hui, nous poursuivons notre parcours chez les grandes civilisations de l'Antiquité et passons du côté de la vallée du Nil pour parler des origines de la civilisation pharaonique. Je me doutais que certaines personnes allaient l'attendre, celui-là. Alors, quand peut-on parler d'une certaine uniformisation culturelle en Égypte et quand commence la gestion monarchique du pays? Ce sont les questions auxquelles on va s'attarder au départ. Et pour suivre la chronologie que nous avons vue dans le cours précédent avec les deux premières civilisations mésopotamiennes, nous allons maintenant nous intéresser plus précisément à la culture Nagada et ce qu'on appelle l'époque prédynastique, pour ensuite parler en partie de la première grande ère de l'Égypte des pharaons, soit l'Ancien Empire. C'est parti! Commençons par expliquer ces appellations d'époque pour l'Égypte ancienne, parce que ça peut être mélangeant, surtout si vous lisez en français et en anglais. En Mésopotamie, pour la même durée que l'histoire pharaonique, la région a vu une succession de civilisations. Alors qu'en Égypte, il y a une grande permanence de ce côté jusqu'à l'époque dite des pharaons noirs, donc ce qu'on va appeler la troisième période intermédiaire. Alors, traditionnellement, on a donc découpé l'histoire de l'Égypte ancienne en blocs, qu'on appelle l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire, qui sont séparés chacun par des périodes intermédiaires qui, elles, représentent des crises du système pharaonique ou des crises de la stabilité du pays. En anglais, on a plutôt privilégié l'appellation « kingdom » plutôt qu'empire, parce que l'Égypte a été les deux dans son histoire ancienne, mais généralement, les datations restent les mêmes. Sachez qu'elles peuvent varier légèrement selon les livres que vous consultez, et surtout selon leur date de publication, parce qu'au fil du temps, des fois, il y a des découvertes archéologiques ou des relectures, en fait, de textes papyrologiques qui peuvent jouer sur quelques décennies. Alors, si on remonte à ce qu'on avait abordé quand on a parlé du néolithique, alors on retourne à 7000-6000 à peu près avant notre ère, où les gens migrent vers la vallée du Nil, s'adaptent au milieu nilotique et vont commencer à mélanger la nourriture de la savane, parce qu'on n'est pas encore dans le plus grand processus de la désertification qui va vraiment confiner les gens vers la vallée du Nil, parce que le désert du Sahara va vraiment, vraiment devenir un désert et il va rester à peu près juste les oasis, en fait, comme on va dire espace de verdure et d'eau au-delà de la vallée du Nil. Mais donc, entre 7000 et 6000, on est encore quand même dans une combinaison des deux, même si le désert s'avance de plus en plus. Alors, les gens mangent du bœuf, des antilopes, des gazelles et beaucoup de produits de la pêche, parce que c'est un peu l'intérêt d'être dans cette région-là. Et quand on passe au néolithique à cette époque, c'est sûr que l'organisation de la société se fait, on l'avait vu, sur une base agricole. Alors, du point de vue archéologique, qu'est-ce qu'on trouve en fait pour le passage au néolithique, bon, on a des vestiges en fait de maisons, de fermes et même de silos de conservation, en fait, qui sont faits tout simplement avec de la boue séchée. Des silos de conservation là, qui permettent de conserver surtout le blé et l'orge pour l'Égypte, surtout à cette époque-là. Mais on trouve aussi donc les premiers pots, de la vannerie et on a même les premières traces de filature du lin pour les vêtements. On s'entend que les gens ne s'habillent pas très, très lourdement. Il fait très chaud, donc on parle essentiellement des fameux petits pagnes et parfois là, de vêtements probablement là, pour couvrir les épaules, mais ça reste quand même des vêtements très, très légers. Ce qu'on voit quand même à l'époque du néolithique, ce sont des différences culturelles selon les secteurs habités. On va avoir ce qu'on appelle la culture fayoumique, la culture tarifienne qui est plus dans le secteur de Thèbes, donc dans le sud du pays. On va avoir ce qu'on appelle les cultures saharo-soudanaises. On est donc dans le sud et la portion peut-être plus du désert occidental. On a aussi ce qu'on appelle la culture badarienne. Donc entre 5500, je vous dirais 4000 avant notre ère, il y a donc plusieurs foyers culturels le long de la vallée du Nil. C'est quand même un très long pays, l'Égypte, je dois vous le rappeler. Et l'unité culturelle va finir par se créer. Elle est basée sur une mixité de traits de toutes ces cultures, mais il y a une culture qui se développe, qui est peut-être un peu plus avancée, notamment ce qui concerne la navigation. Et c'est la fameuse culture Nagada qu'on va généralement là, dater entre environ 4000 et 3200 avant notre ère, donc qui est contemporaine de la civilisation d'Uruk du côté de la Mésopotamie. On parle d'une culture ici plutôt qu'une civilisation parce que le territoire d'influence n'est peut-être pas aussi large que ce qu'on attribue généralement à une civilisation, mais on est quand même assez près, je vous dirais, parce que c'est vraiment cette culture-là qui va en venir à l'emporter sur toutes les autres que je vous ai nommées et on va commencer à voir cette uniformisation culturelle sur pas mal tout le territoire en fait de la vallée du Nil. Le Nagada, c'est le nom d'un site de Haute-Égypte en fait, où on a trouvé, entre autres, un cimetière de plus de 3000 tombes. Le Nagada est beaucoup associé à ces premières momies naturelles de l'histoire de l'Égypte ancienne, des cimetières qui avaient été trouvés, entre autres, à la fin du 19e siècle par Flinders Petrie. Donc, on a des corps dans des positions fœtales. Vous connaissez peut-être Ginger, qui est une des momies de cette époque les plus célèbres parce qu'elle est exposée au British Museum. Des corps qui sont donc placés en position fœtale, enveloppés dans des peaux d'animaux et qui sont simplement, à l'époque, déposés dans des trous creusés dans le sable. Alors, ce sont des momies naturelles. C'est en fait la sécheresse du désert, le fait qu'il y a très peu de pluie, en fait, surtout dans la section occidentale du désert égyptien, et donc très peu d'eau, d'humidité. C'est ce qui fait, en fait, que les corps se dessèchent et se préservent. Et là, plus on va avancer dans le temps, plus on va aller vers des premiers tombeaux un peu plus élaborés. Mais pour le Nagada, c'est essentiellement ça, des fosses avec des corps dans des positions fœtales où le désert va faire son travail et créer donc ses premières momies naturelles. Quand on parle du Nagada, on parle quand même d'une plus grande complexité au niveau de la poterie que les autres cultures que je vous ai évoquées au départ. On a en fait des pots qui vont avoir beaucoup de décorations, des pots avec des pieds aussi. Donc, on voit qu'il y a quand même un travail artistique qui est fait quand on façonne la poterie. En fait, ces bols avec des pieds sont probablement les plus célèbres là, pour lorsqu'on parle du Nagada parce qu'ils sont assez uniques et vont déjà peut-être évoquer, laisser penser à cette espèce d'anthropomorphisme qu'on va voir aussi dans le monde divin chez les Égyptiens, où souvent les dieux qui ne doivent jamais être représentés vont avoir une tête d'ibis, une tête de chacal, mais un corps humain. Donc, vous pouvez aller voir en fait les bols à pied du Nagada si ça vous intéresse, pour voir un petit peu ces origines-là. Et c'est sûr que dans les peintures, parce qu'ils vont peindre aussi sur la poterie notamment, on voit beaucoup le thème de l'eau et des bateaux. Alors, c'est une culture qui va vraiment commencer. Et c'est probablement ce qui explique en fait qu'elle a amené cette uniformisation culturelle dans la vallée du Nil. Ce sont des gens qui maîtrisent les premiers bateaux, des petits bateaux, on s'entend, très probablement à voile, de ça on en est presque certain. Et donc, ils peuvent naviguer comme ça le long du Nil et entrer en contact avec les différentes régions, donc du sud jusqu'à la mer Méditerranée. Alors, c'est le début du commerce, de la circulation des idées, notamment en ce qui concerne peut-être le monde divin, de la circulation des biens aussi et des ressources naturelles. Et on réalise par les peintures de l'époque du Nagada que les bases des ordres cosmiques auxquels vont croire les Égyptiens de l'époque pharaonique se mettent lentement en place. Parce que le Nil va devenir un fleuve mythique qui va être celui sur lequel les hommes voyagent, mais il va y avoir aussi son pendant surnaturel pour faire voyager les dieux aussi. Et c'est au Nagada qu'on commence déjà un grand travail de la pierre. Alors, on commence déjà à travailler le grès, l'albâtre, le marbre, le basalte, la diorite, qui sont quand même des pierres très abondantes, généralement un petit peu plus du côté du désert oriental pour les pierres. Et nos momies, donc, on les trouve plus du côté du désert occidental. On commence à travailler un petit peu plus les métaux comme le cuivre, l'or et l'argent, mais on n'est pas nécessairement dans la grande métallurgie, contrairement à ce qu'on a vu pour la civilisation d'Uruk, où là, on utilise les fours, on commence à faire des alliages. On travaille les métaux, mais on les travaille tels qu'ils sont. Pour l'époque, du moins. Et en fait, les Égyptiens vont peut-être tarder un petit peu en ce qui concerne les alliages si on compare à la Mésopotamie. Et on s'est rendu compte, en fait, avec les fouilles archéologiques, qu'il y a déjà eu des pillages, des vieilles tombes de l'époque du Nagada, même si ce sont des momies naturelles, donc les tombeaux dans lesquels ils sont inhumés, donc les fosses, il y a déjà eu du pillage parce qu'on enterrait les gens généralement avec des bols, avec des objets. Alors peut-être déjà cette idée qu'on partait avec nos biens pour une autre vie, mais comme certains partaient avec des objets de plus grande valeur, notamment en métaux précieux, eh bien, ces tombes ont été pillées déjà, en fait, entre le 4000 et le 3200 avant notre ère. Mais le travail des métaux et ce travail aussi de la pierre, parce qu'on a des sculptures quand même assez avancées, ça nous démontre l'existence d'artisans spécialisés qui vont travailler pour un village, pour une ville, parce qu'on commence lentement, mais sûrement, plus on s'approche des années 3500, 3400 avant notre ère, on commence à avoir vraiment des agglomérations urbaines, donc une plus grande démographie, une meilleure division de l'espace aussi avec une place publique qui pourrait rappeler l'idée d'un sanctuaire et d'un lieu peut-être pour la politique ou les discussions politiques du moins, et les habitations et les fermes tout autour. Et on se rend compte en fait, puisqu'on a des silos depuis le néolithique, que assez rapidement en Égypte, on arrive avec des surplus agricoles qui vont pouvoir supporter des classes de gens qui ne travaillent pas la terre. Alors il y a très probablement probablement. Et je vous dirais que les œuvres d'art nous envoient un peu cet indice. Très probablement, en fait, là, une élite politique administrative déjà qui existe chez la culture du Nagada. Mais ça reste quand même une culture plus de village, même si on a quelques centres proto-urbains, comme probablement une des plus anciennes villes, en fait, de l'Égypte, Hiéracopolis. On a des maisons qui sont rectangulaires quand même assez simples, généralement une pièce ou deux là, pour cette époque-là. Et quand on arrive vers 3200 avant notre ère, c'est là où on entre dans ce qu'on appelle l'époque dite du pré-dynastique ou ce qu'on appelle surtout l'époque de la formation de l'État égyptien. Donc, un peu le pré-grand pharaon, mais c'est les débuts, en fait, de la mise en place du système pharaonique. Et on parle de la formation de l'État égyptien pour une datation qui joue à peu près, ça ici, ça peut varier quand même assez entre les livres, de peut-être une centaine d'années. On va jouer à peu près entre 3200 2686 à peu près avant notre ère. Alors là, on touche pas mal l'époque des Sumériens qu'on a vu pour la Mésopotamie dans le cours précédent. Et bon, c'est sûr que c'est une période qui, du point de vue archéologique, n'est pas nécessairement la mieux documentée, mais quand même, grâce aux fouilles et grâce à une pierre, en fait, gravée, hiéroglyphique, qui est postérieure à l'époque qui nous intéresse, qu'on appelle la pierre de Palerme, on a quand même une idée que c'est l'époque où on commence à avoir des premiers rois. On a, en fait, sur cette pierre-là, les premières dynasties. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la dynastie 0 jusqu'à la 5e dynastie. Donc, avant qu'on commence à entrer dans ce qu'on va appeler l'Ancien Empire, l'époque que des grandes pyramides du plateau de Gizeh. Alors, est-ce que ces premiers rois, surtout ce qu'on peut appeler la dynastie 0, est-ce qu'ils ont été plus des chefs de clans, de tribus? C'est assez difficile, en fait, de l'évaluer. Mais on se rend compte quand même, quand on étudie les tombes qui datent plus de la fin des années 3000, on est surtout du côté de la Haute-Égypte. Donc, pour vous replacer dans la géographie égyptienne, le Nil, en fait, détermine là, cette division entre Haute et Basse-Égypte. La Haute-Égypte, c'est le sud du pays, donc quand on est plus proche, en fait, du Soudan, parce que le Nil, en fait, est plus haut, il descend vers la mer Méditerranée. Alors, si je vous mentionne la Haute-Égypte, on est plus dans le secteur de Thèbes, Louxor, etc., vers le centre. Et quand je vous parle de la Basse-Égypte, bien, on part plus du centre et on s'en va vers la mer Méditerranée. Pense entre autres au secteur du Caire, où l'ancienne capitale qu'a été Memphis. Alors, les tombes qui ont été découvertes en Haute-Égypte et plus tard, en s'en allant vers le centre du pays, à Abydos, sont en train de nous démontrer un changement quand même. On voit une plus grande hiérarchisation de la société par les biens et les types, en fait, de fosses qui sont aménagées. On commence, en fait, déjà à mettre de la pierre, en fait, pour certaines tombes. Et quand on met de la pierre, qu'est-ce qui se passe? Bien, automatiquement, même si on met des corps en position fœtale dedans, contrairement à quand c'est dans une fosse dans le sable, bien là, la pierre, elle, avec les changements de température du désert, vont commencer à amener de la condensation, de l'humidité. Et là, ces corps-là se sont décomposés. Il reste rien, pour ainsi dire, sauf les objets. Mais on commence donc à voir des tombes d'une élite qui ont des objets en or, en lapis-lazuli, qui n'ont pas été pillés, donc les archéologues ont pu les trouver. Ça nous aide à voir ce début de la hiérarchisation de la société. Et ça va de pair avec des preuves, quand même assez concrètes, je vous dirais, de l'existence d'un commerce de longue distance, donc entre le sud et le nord du pays, et même avec l'Afrique. Donc on a différents types de bois, de l'ivoire qui voyage un peu et qui est travaillé en œuvre d'art aussi. Et on se rend compte que certaines, on va dire, tribus ou certains clans, en tout cas, semblent plus efficaces d'un point de vue commercial. Et est-ce que dans certaines zones du pays, on va exercer une forme de domination commerciale sur d'autres? Est-ce que ça va commencer à créer des tensions, d'ailleurs, dans les échanges commerciaux? Ça fait partie des théories pour expliquer comment, à un moment donné, on va arriver à une uniformisation politique de l'Égypte. Donc, un seul roi qui va en venir à gérer l'ensemble du pays. Donc, lentement, mais sûrement, à partir des années 3000, on s'en va vers ça. On remarque aussi, d'ailleurs, à partir des années 3000, avant notre ère, qu'il y a de plus en plus de sites, donc plus de gens, et que les sites dépassent, en fait, la vallée du Nil. Ils vont s'en aller de plus en plus vers le nord et vers des régions périphériques, comme ce qu'on appelle le Fayoum, qui est quand même une zone assez intéressante pour l'agriculture, parce qu'elle n'est pas inondée comme les autres régions de la vallée du Nil. Elle n'est pas inondée directement, mais il y a une branche du Nil qui s'y rend. Alors, on peut plus facilement, je vous dirais, le contrôler les arrosages que les gens qui habitent la vallée du Nil, qui doivent attendre, en fait, que les inondations évaporation ait lieu et que l'eau se retire pour mélanger là, le limon, cette espèce de compost naturel aux terres agricoles pour ensuite pouvoir les cultiver. Alors, on a une unification culturelle dans une bonne partie du pays et là, on a effectivement des sites urbains qui émergent et déjà, à cette époque-là, à l'époque de la formation de l'État égyptien, on remarque qu'on va avoir des lieux de vie, des lieux politiques qui ont tendance à être construits sur la rive est, là où le soleil se lève, et les nécropoles, les lieux plus de culte, ont tendance à être sur la rive ouest, donc là où le soleil se couche, surtout pour les nécropoles. On est beaucoup plus sur la rive occidentale. Alors, les sites importants pour cette époque-là, ben, c'est Hiéracompolis, qui est beaucoup le lieu de vie des premiers rois de cette époque là, de transition vers la formation d'un État égyptien, et Abydos, qui est un lieu de culte important, entre autres pour les cultes solaires et déjà le culte du dieu Osiris, et qui est aussi un lieu de nécropole. Donc, les plus anciens tombeaux des premières dynasties, qu'on appelle des mastabas, se trouvent à Abydos. On n'est pas encore, en fait, sur le plateau de Gizeh ni à Saqqara pour cette période. Et quand on parle de mastabas, j'y reviendrai parce que je ferai vraiment, à un moment donné, un cours complet plus sur l'évolution du monde funéraire en Égypte, mais je ne suis pas rendue là encore. Là, présentement, je vais vous placer chronologiquement un peu partout pour l'Antiquité. Mais un mastaba, en fait, ça vient de l'arabe pour banc, parce qu'on va faire une espèce de un monticule qui rappelle un peu la butte originelle des mythes cosmogoniques égyptiens. Donc, cosmogonie, cosmos, gignomai, comment le monde est né, d'une certaine façon. Donc, les mythes des origines. Et les tombeaux qu'on appelle les mastabas, ben, vous avez une petite chambre funéraire dans le sol, mais au-dessus, sur le sol, ben, vous avez cette espèce de butte, ce qui rappelle la butte originelle, qui est fait généralement là, en espèce de pierre ou des fois un peu en brique crue d'ailleurs. Et c'est un peu ce qu'on va trouver du côté d'Abydos pour ce qu'on appelle les tombeaux des premiers souverains de l'Égypte. Et là, ça nous amène à parler de ce moment un peu difficile à dater, mais on joue vraiment autour des années 3100-3000. Où on va avoir des conflits armés, il y a des guerres probablement liées au commerce, peut-être même à une volonté de contrôler davantage le commerce en Égypte, et ça va mener à l'unification des deux Égyptes, donc la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, sous l'autorité d'un seul homme. Et la tradition égyptienne, donc la pierre de Palerme, et même des textes ultérieurs encore, nous parlent généralement d'un homme qui a réussi cette uniformisation. A-t-il vraiment existé ou pas? C'est matière à débat, je ne vous le cache pas, parce que des fois, on peut nommer un homme pour incarner le début de l'État unifié, mais il y a peut-être plusieurs personnes qui ont contribué aussi à cette unification-là, mais pour les Égyptiens, il s'appelle Narmer. Je vous dirais que dans la littérature la plus récente, on a plus tendance à aller vers un personnage mythique, mais un personnage fondateur néanmoins. Et Narmer est quand même nommé, représenté là, sur beaucoup de monuments contemporains, surtout d'époque ultérieure, même au Nouvel Empire, donc beaucoup plus tard dans la chronologie. Et les histoires égyptiennes vont lui attribuer cette espèce de naissance de l'État égyptien unifié. Mais on se doute très bien, et surtout l'archéologie nous donne des indices que ça ne s'est pas vraiment réalisé là, de manière aussi soudaine, un seul homme qui y arrive. Il y a eu toute une gradation, enfin, au niveau des conflits du commerce pour que ça se produise. Mais si on suit un peu la tradition littéraire égyptienne, Narmer... Donc, va symboliser surtout la fin de ce qu'on appelle un règne divin sur Terre et la passation des pouvoirs aux hommes, à leurs descendants, donc les rois. C'est un peu ce qu'il incarne, en fait, dans les récits. Et c'est lui qui va donner naissance à ce qu'on appelle la monarchie de droit divin en Égypte, surtout pour les plus anciennes époques, entre autres l'Ancien Empire. Le roi va vraiment faire la propagande comme quoi il est un dieu sur Terre et en même temps un intermédiaire entre le monde des dieux et celui des hommes, mais il est un dieu incarné et à sa mort, il va retourner dans le ciel au départ pour continuer à protéger l'Égypte avec les autres divinités. Et donc, ce qui est intéressant quand même pour Narmer, c'est que pour l'époque 3000 avant notre ère, on a une palette en fait quand même assez intéressante, la palette de Narmer. Donc, je vous invite à aller taper ça dans votre moteur de recherche pour la voir, qui est une palette en fait recto et verso, où on voit en fait cette conquête de la Haute et de la Basse-Égypte par Narmer. Donc, on a toujours en haut deux têtes de vache qui vont rappeler à la déesse Hathor, qui vont encadrer un sérec, qui est comme une espèce de sceau qui représente le roi, un peu à l'instar des sauts-cylindres de la Mésopotamie dont je vous avais parlé dans le cours précédent. On n'est pas encore dans les hiéroglyphes, mais on est comme dans les pré-hiéroglyphes. Et donc, d'un côté, on a des scènes qui évoquent les victoires en Basse-Égypte, où il porte d'ailleurs la couronne de la Basse-Égypte, une couronne qui est tronquée. Et on voit déjà, en fait, que les ennemis s'en vont dans le monde souterrain. Et dans le monde souterrain, il y a des créatures mythologiques un peu inquiétantes qui sont déjà présentes, où on piétine les ennemis. Les ennemis, en fait, se retrouvent dans un lieu où personne ne semble vouloir aller. Et de l'autre côté, ben là, c'est le roi qui vainc ses ennemis, les protéger. Déjà, on voit un faucon, donc très possiblement Horus, le dieu faucon qui protège les pharaons. Et là, il va porter la couronne de la Haute-Égypte. Alors, plus tard, les pharaons vont porter cette fusion des deux couronnes qu'on appelle le Pshent. Et ça aussi, là, vous pourrez aller voir. C'est assez facile là, de remarquer tout ça là, si vous faites un petit peu de recherche sur Internet avec les termes que je vous donne. Mais la palette de Narmer est un très, très bon départ là, pour voir tout ça. Et c'est sûr que malgré la pierre de Palerme qui nous fait un peu la liste de ses premiers rois après Narmer, on ne les connaît pas très bien, là, ces rois de ce qu'on appelle l'époque pré-dynastique ou ce qu'on peut appeler aussi l'époque Tinite pour un autre centre urbain qui est la ville de Tis. Mais on sait quand même que c'est l'époque de l'unification du territoire, unification des croyances mythologiques, religieuses, une standardisation de l'économie, de la politique et de la culture qui nous mène à la première grande époque de l'Égypte ancienne qui est l'Ancien Empire, qui va être contemporaine de l'époque des Sumériens et de ce qui va suivre, en fait, du côté de la Mésopotamie, qui va être contemporaine aussi des débuts de ce qu'on appelle la civilisation minoenne ou crétoise du côté de l'île de Crète. Alors, on s'en va vers les débuts du système pharaonique et comme je vous dis, les rois mythiques, on peut difficilement en parler, on les connaît quand même très, très mal, mais donc les sites d'Abydos, Hiérakonpolis sont encore très, très importants, sont les centres du pouvoir, les centres religieux, les centres aussi funéraires. Et au départ, on semble voir quand même un système qui est un peu fourre-tout pour essayer de gérer ce grand pays. Et lentement mais sûrement, ben là, on va commencer à développer une bureaucratie et un système étatique qui est fonctionnel. Donc, c'est ce qui va nous mener, en fait, à l'époque de l'Ancien Empire, vers 2686 à peu près, là, avant notre ère. Mais avant d'aborder ça, ben c'est sûr que dans la transition entre le pré-dynastique et cette époque de l'Ancien Empire, on développe graduellement l'écriture. Donc, je vous disais que sur la palette de Narmer, on a ce qu'on appelle des sérèques, qui sont plus des sceaux, en fait, qui représentent le souverain. Mais au fil du temps, on va commencer à développer le système hiéroglyphique. Hiéroglyphe, d'ailleurs, ça vient du grec, hein, pour sacré, glyphos, ben pour dessin, donc des symboles sacrés. Ce sont les Grecs qui ont appelé ça comme ça. Mais on se rend compte quand même que contrairement à l'évolution qu'on a vue pour la Mésopotamie, où on est parti d'un système plus comptable qui a mené éventuellement vers l'écriture complète, le cunéiforme, l'Égypte n'a pas tout à fait la même évolution. Donc, on part vraiment de sceaux symboles, des sérèques, et très, très rapidement, on va commencer à utiliser des pictogrammes pour illustrer les objets du quotidien et on va tout de suite passer, c'est comme un petit peu plus direct en fait, les pictogrammes mènent tout de suite aux idéogrammes et d'autres symboles vont tout de suite être des symboles phonétiques et syllabiques. Les hiéroglyphes, c'est quand même assez complexe. Mon but, comme je vous disais dans ces cours-là, c'est de vous permettre de bien comprendre les bases. Mais donc, le système hiéroglyphique, c'est quand même ça. C'est un mélange à la fois d'idéogrammes, donc de symboles idéographiques, mais aussi, qui doivent être fusionnés ou du moins jumelés pour pouvoir avoir du sens. Mais vous avez aussi des symboles qui sont littéralement de la phonétique, donc qui représentent des sons de la langue. Et c'est là où Champollion a fini par comprendre comment les déchiffrer. C'est quand il a compris, en fait, que c'était un mélange des deux systèmes. Contrairement au cunéiforme de la Mésopotamie, où à un moment donné, on n'a qu'un système qui est phonétique et syllabique. L'Égypte, les hiéroglyphes conservent aussi une base idéographique et mélange, en fait, les deux. On pense qu'on arrive vers le premier système complet des hiéroglyphes vers à peu près 2750 avant notre ère, donc juste avant qu'on entre dans l'époque de l'Ancien Empire. C'est sûr que les premiers textes des inscriptions sont très, très sommaires, les premiers textes papyrologiques sont très simples et généralement concernent à peu près uniquement les souverains, donc on n'a pas vraiment de littérature pour nous aider à comprendre la société à cette époque-là. On va commencer avec un système qui a plus de 2000 signes environ. Et on va réduire les signes et les symboles quand on va arriver au Moyen Empire à peu près là, à environ 750 signes. Alors, lentement mais sûrement, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'Égypte, par sa position géographique en Afrique, sur les bords de la Méditerranée, va commencer déjà à avoir des contacts étrangers là, juste avant de passer en fait à l'Ancien Empire. Elle va avoir des contacts avec Uruk, aucune surprise ici. Et même si la gestion est différente, on va quand même commencer à échanger des produits. L'Égypte va exporter, on s'en doute, de l'or, peut-être du lapis-lazuli, et va probablement importer entre autres du bitume. Qui arrive de Mésopotamie. Et c'est sûr que le développement de bateaux encore plus performants que l'époque du Nagada vont favoriser en fait ce déplacement en Méditerranée où on va avoir aussi des échanges maritimes, mais probablement peut-être terrestres aussi avec ce qui est aujourd'hui, là, ce que sont aujourd'hui les territoires de la Syrie, de la Palestine. Et on va avoir des contacts aussi avec Babylone plus tard. Donc, on a vraiment des contacts avec toute la région mésopotamienne et ce qu'on peut appeler le couloir syro-palestinien. Et c'est sûr que quand on s'en va du côté de l'Afrique, ben là, les Égyptiens vont aussi commencer à entrer en contact avec une région qui est moins développée, je vous dirais, politiquement, culturellement pour l'instant. C'est l'ancienne Nubie, essentiellement Soudan, Éthiopie, où là, ben, on va commencer aussi à avoir des contacts parce qu'il y a des mines d'or hein, de ce côté-là. On en reparlera dans d'autres cours, mais ces mines d'or-là, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, l'Égypte va vouloir en avoir le contrôle. Alors, quand on commence à entrer vraiment dans le système pharaonique en tant que tel, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Empire, daté généralement là, de 2686 à 2160 avant notre ère, grâce entre autres à la pierre de Palerme, on est capable d'avoir de bien dater en fait ces règnes-là. Donc on parle essentiellement de la 3e à la 6e dynastie à peu près. Et c'est sûr que quand on parle de dynastie, c'est qu'il y a des changements de famille, des renversements ou des fois pas assez de descendants et on doit passer... À une autre famille régnante. Donc, l'Ancien Empire va avoir une contemporanéité avec les Sumériens et ce qui va suivre ensuite en Mésopotamie, qui est Akkad, qu'on parlera d'ailleurs dans les prochains cours aussi. Et c'est sûr que la liste des souverains de l'Ancien Empire n'est pas nécessairement complète. Donc, à un moment donné, on pourrait faire des découvertes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fouilles archéologiques du côté de Saqqara, la grande nécropole d'Ancien Empire. Ça pourrait mener à un moment donné à mieux connaître des pharaons mal connus ou peut-être même en ajouter dans la liste. C'est une possibilité, pas une tonne, mais ça pourrait arriver. Mais on sait que l'Ancien Empire, mais là, c'est une époque quand même de paix et la paix favorise la prospérité du pays du point de vue de l'agriculture, du commerce. Et là, on va avoir une monarchie centralisée avec une bureaucratie qui est de plus en plus complexe et développée, ce qu'on appelle le système pharaonique. Et parce qu'on a un système très stable pour cette époque-là, ben l'Ancien Empire est marqué par des développements économiques, politiques et architecturaux. Donc oui, les pyramides, mais aussi tout ce qui est une architecture colossale pour montrer en fait ce pouvoir divin en fait du pharaon et comment il maintient l'ordre et maintient en fait la survie même du monde qui est l'Égypte pour les Égyptiens. Alors il doit démontrer qu'il est un dieu et qu'il peut garder la stabilité du pays. Et c'est pour ça que la propagande royale et les symboles forts de la royauté sont si importants pour l'Ancien Empire. Alors, on est vraiment, comme je vous disais, dans un art et une architecture monumentale qui va symboliser là, la puissance du roi, du pays, des dieux. Et c'est pour ça qu'on s'associe on va rapidement associer les pharaons à ces dieux descendus sur terre là, pour protéger la terre égyptienne. Donc, c'est ce qu'on appelle des monarques de droit divin. Et déjà, ils sont les gardiens de l'ordre, de la justice, qu'on appelle la Maat. Maat, oui, est une déesse égyptienne, représentée par, entre autres, une femme avec une plume d'autruche sur la tête, mais elle est aussi, en fait, je dirais, tout le code de justice et d'éthique des Égyptiens. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, leur rôle, essentiellement, bien, c'est de maintenir la course du soleil, de maintenir le cycle des crues du Nil, d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Alors, l'époque la plus marquante de l'Ancien Empire et sur laquelle je vais m'attarder pour ce cours-ci, bien, c'est évidemment celle des 3e, 5e dynasties, qu'on appelle souvent aussi l'époque des bâtisseurs de pyramides. On joue à peu près, là, pour la chronologie, entre 2686-2345 avant notre ère, où on va avoir une vingtaine de pharaons, en fait, qui vont en venir à transformer des paysans en tailleurs de pierre et en constructeurs, de machines à ressusciter, parce que c'est un peu ça l'idée des pyramides. C'est que le pharaon, après sa mort, va pouvoir retourner dans le monde des dieux et continuer à protéger l'Égypte pour l'éternité. Alors, c'est sûr que ça va marquer le monde entier, parce qu'on va vraiment faire preuve d'ingéniosité. Et les pharaons, eux, vont utiliser tout un système de propagande, comme je vous disais, pour témoigner de leur puissance. Alors, c'est probablement la plus belle forme d'immortalité, d'ailleurs. Si on parle un peu des sources, parce que là, ça devient important, ce n'est pas le cours où je vais parler de la construction des pyramides. Je vais vraiment faire un cours sur le funéraire, l'évolution des monuments funéraires, éventuellement dans les prochains cours. Je ne suis pas rendue là encore parce que, comme je vous disais, je veux qu'on suive en fait un fil un peu chronologique et qu'on voit un peu plusieurs civilisations qui sont contemporaines. Mais il faut quand même pas oublier qu'on a quand même du matériel, on a un peu de sources. C'est pas l'Ancien Empire qui nous fournit le plus de matériel écrit, parce que c'est quand même les débuts de l'écriture hiéroglyphique, mais on a quand même pas mal de vestiges archéologiques assez impressionnants. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement toute l'information souhaitée sur les pharaons et leur règne, parce que la documentation écrite, comme je vous disais, est quand même limitée. Alors, on se base sur des textes des fois ultérieurs, on a quand même des textes papyrologiques intéressants. On pourrait en avoir plus si la ville voulait, ce serait le fun. L'archéologie, c'est sûr que c'est ce qu'on a comme base. Mais on est chanceux aussi parce qu'on a des inscriptions funéraires gravées dans la pierre. Plus on s'en va vers la fin, en fait, de l'Ancien Empire, plus on a d'inscriptions dans la pierre. Et ça, ben, ça survit au temps et ça nous fournit quand même un petit peu plus d'informations. Et ça nous aide à comprendre un peu plus aussi le fonctionnement de l'État égyptien. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est que c'est sûr que si on décrit un peu la base de l'Ancien Empire, l'économie, c'est une économie agricole, mais aussi une économie d'échange. On commence à avoir des politiques extérieures commerciales parce qu'on a des contacts avec le Proche-Orient en général, donc ça, c'est assez intéressant. Et on commence à développer en Afrique aussi un carrefour de routes caravanières. Donc, je parlais déjà du commerce de l'ivoire. Bien, on prend en fait certains produits comme le bois d'ébène aussi qui arrive de plus au sud en Afrique et par des routes caravanières qu'on développe, bien, les Égyptiens ont accès à ces produits-là et eux peuvent ensuite les amener vers les différentes zones commerciales et éventuellement par la mer Méditerranée, par le transport maritime, transporter ces produits-là vers, en fait, d'autres régions avec lesquelles on fait du commerce. Et donc, il faut les surveiller, ces routes commerciales-là. Il faut déterminer aussi les réseaux d'échange africains et méditerranéens avec qui on échange, qu'est-ce qu'on échange, comment on détermine les valeurs des produits d'échange. Et c'est un petit peu ce qui explique pourquoi l'ancienne capitale, le plus du pré-dynastique, qui est Hiéracompolis, va, en fait, céder sa place à Memphis. Donc, pour l'Ancien Empire, la capitale, c'est Memphis, on est pas mal au centre du pays. Meilleure situation géographique pour faire le lien entre le sud et le nord et mieux contrôler peut-être, en fait, effectivement, les voies commerciales entre les deux zones. On voit déjà que l'or est associé à la divinité parce qu'il brille au soleil, il est inaltérable, il est malléable, donc on l'associe à la chair des dieux. Il faut dire que l'or est utilisé essentiellement pour les temples et les objets du pouvoir du pharaon, pensant entre autres à un sceptre. L'Ancien Empire, la richesse agricole, elle vient du Nil, hein, et on va commencer à développer des techniques d'irrigation quand même assez simples au départ, mais pensant entre autres à des canaux qui vont permettre de détourner l'eau d'irrigation plus à l'intérieur des terres et déjà des bassins de réservation de l'eau limoneuse, donc cette espèce d'eau pleine de compost qu'on va pouvoir conserver après le retrait des eaux pour continuer à arroser et, dans le fond, fournir une forme d'engrais pour les cultures aussi. On n'est pas à une époque où on a des frontières qui sont vraiment très, très bien déterminées ou avec des fortifications, mais on a quand même une forme de surveillance de ces frontières-là. L'Égypte n'est pas très militarisée, mais on a quand même des gens qui font la surveillance des frontières, surtout avec le sud du pays, la frontière avec ce qu'on appelle l'ancienne Nubie. Et on commence lentement mais sûrement à comprendre que Là, on a des paysans partout. Le désert nous crée une barrière, une frontière naturelle de chaque côté. Mais pour la vallée du Nil, qui est très, très longue, si on veut gérer, en fait, les taxes, les impôts en nature, donc qui vont être envoyés à l'État parce qu'on va avoir besoin d'une bureaucratie de gens qui ne travaillent pas la terre, ben on va devoir créer des zones administratives. Et c'est comme ça que, graduellement, on développe une bureaucratie à l'Ancien Empire, même si on ne connaît pas très, très bien le nom de ces plus anciens bureaucrates et administrateurs. Il y a quand même, et ça, je vais vous en reparler, des papyrus qui ont été découverts il y a quelques années par l'égyptologue Pierre Talet, ce qu'on appelle le journal de Merer, qui est un fonctionnaire de l'époque de la pyramide de Khéops, qui nous montre en fait un peu ce système bureaucratique où on note en fait le transport des pierres de la rive est vers la rive ouest pour les amener sur le site de la pyramide, comment on rémunère les travailleurs, entre autres en bière, en vêtements. On a pas tant de sources comme ça, mais quand on en a, c'est vraiment chouette parce qu'on comprend mieux, en fait, ce type de gestion. Donc, c'est le journal de Merer, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous reparler de ça éventuellement. Mais c'est sûr que là, on va commencer à créer des régions administratives qu'on appelle des nomes, qui vont être gérées par des nomarques. Donc, ça prend des gens qui sont lettrés. Donc, ce sont, en fait, des gens qui ont eu l'éducation, à même titre que les scribes et les prêtres. Et le nombre de nomes va varier là, pendant l'Égypte ancienne, entre 36 et 42. Et ça permet, donc, d'avoir, ça permet d'avoir des zones administratives plus faciles à gérer pour les impôts et s'assurer du fonctionnement de l'irrigation. Toutes les régions ont leur rôle, en fait, pour s'assurer que les canaux, les bassins de réservation ne s'ensablent pas, qu'on les nettoie, que l'eau circule bien. Et les nomes n'ont pas toutes les mêmes tailles géographiques, ni même la même démographie, je vous dirais. Alors, je m'arrête ici pour cette semaine. Dans le prochain cours, nous allons continuer à parler de l'Ancien Empire. On parlera un peu des pyramides, mais comme je vous dis, je ferai vraiment un cours spécial sur le monde funéraire. Et on passera aussi à l'Égée et plus particulièrement à l'île de Crète. Parce que comme je vous disais, je veux rester dans la même tranche chronologique là, des 4000-2000 pour l'instant avant notre ère, pour qu'on puisse vraiment voir, comme je vous disais, la contemporanéité de plusieurs civilisations en même temps un peu partout dans le monde. Et, alors c'est pour ça qu'on fera aussi un petit saut du côté de l'île de Crète. Et pour en savoir plus sur le sujet de ce cours, eh bien là, je vous suggère comme lecture un des plus récents livres qui est paru en français, qui s'appelle « L'Égypte des pharaons », tout simple, par Damien Agut et Juan Carlos Moreno Garcia. C'est chez Bélin, donc dans leur collection des mondes anciens. Et une brique très intéressante, très spécifique et très originale, mais en anglais, mais qui n'a pas vraiment son équivalent en français pour l'instant, qui s'appelle « A History of Ancient Egypt, From the First Farmers to the Great Pyramid ». Et ça, c'est écrit par John Romer, R-O-M-E-R, et c'est paru chez Penguin Books. Si vous voulez suivre mes actualités en histoire et en archéologie sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre mes deux comptes Facebook, Evelyne Ferron, historienne, et le compte Historiophile. Et je vous rappelle que je fais aussi des actualités sur mon compte personnel sur X. J'ai aussi un compte Instagram où là, je mélange histoire, mais aussi, d'autres intérêts. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain cours.